Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma avec un plateau garni, Sophie Avon de Sud-Ouest, Eva Bétan de France Inter, Eric Neuhoff du Figaro, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série tous les samedis soirs à 20h sur notre chaîne, et Pierre Murat de Télérama.fr. On parle ce soir des films de Chloé Zhao, Jacques Audiard, Catherine Corsini, Wes Anderson, Guillaume Canet, Xavier Beauvois. Et dans le courrier de la semaine, je garde pour le prochain masque cinéma l'abondant et très élogieux courrier reçu pour Illusion perdue. En revanche, Tralala des frères Larieux divise nos auditeurs. Pour Bernard Magnon de Lyon, c'est un film long et insipide qui manque de rythme et ressemble à un film d'amateur. Même Sévérité de Pierre Cuisor, la dernière comédie musicale française était une catastrophe. Elle s'intitulait Annette, une histoire de marionnette ridicule. Quelques mois plus tard, c'est un désastre de non-sens qui a pour nom Tralala, et c'est le spectateur que l'on prend pour un pantin. Au contraire, Damien Vabre a trouvé des moments de grâce avec Mélanie Thierry, de belles séquences musicales avec Bertrand Belin et une photo magnifique. Mais le tout est quand même plombé par une histoire d'imposture bancale. Nadine Baldéquipe, qui est professeure d'italien dans le sud de la France, elle a tout aimé dans ce conte pas moral qui ne se prend pas au sérieux et qui nous emmène dans la ville où tous les miracles sont possibles. C'est lourd, je le rappelle. Au-delà de la légèreté revendiquée, ce film révèle aussi les fêlures et les chagrins de la vie. Christian Guillaume, là on passe au film Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Christian Guillaume de Lille nous remercie d'avoir encensé Les Intranquilles. J'ai été très secoué par ce film bouleversant, d'autant plus que mon père était maniaco-dépressif. Et je trouve le jeu de Damien Bonnard très convaincant dans les phases d'excitation. Et je ne comprends pas qu'Éric Neuhoff puisse rester insensible à un tel film. D'ailleurs, aucun de nous n'a compris. Hein.
Bon, ça fait longtemps qu'on en est revenu.
C'est vrai. Enfin, il est toujours là. Hein.
Oui. Non,
pour Stéphane Collin, bon. Ce film expose avec un grand réalisme les relations entre les bipolaires et leurs proches. Le personnage de Léla Bekti parlera de façon troublante aux familles s'occupant de parents souffrant de cette pathologie, et d'autres lettres allaient dans le même sens. Sinon, un joli témoignage de Benjamin qui a 25 ans et qui habite Montpellier. Chère équipe du Masque et la Plume, cela fait un an que je passe mes journées en votre compagnie. En effet, j'ai pu récupérer l'intégralité des épisodes du Masque Cinéma depuis octobre 1957. Oula. Pas un jour sans vous écouter, nous dit Benjamin, du premier Lumette, 12 hommes en colère, au dernier Villeneuve Dune. J'ai ainsi traversé des années de cinéma. Merci d'exister. Enfin, une question sans doute codée, parce que je ne la comprends pas, de Daniel Brévin, et qui s'adresse à Xavier. Bonsoir, monsieur Garcin. Y a-t-il un moyen de savoir ce que Xavier Le Herpeur fera le 30 juin et le 1er juillet 2023? Merci d'avance.
C'est très facile. C'est quoi? Si tu n'étais pas déconnecté des grands moments culturels de ce monde.
C'est quoi?
Ce sont les deux concerts de Mylène Farmer au Stade de France, enfin. Tout le public le sait.
Oh là là là.
J'ai mis 17 heures à avoir des billets. Non, bah oui, bien sûr. Il n'y a que toi qui ignore ces dates.
Oui, enfin... 30 juin et 1er juillet 2023.
Oui, les deux.
Mais elle ne sera pas à ce moment-là jurée du prochain festival de Cannes? Non?
Peut-être pas.
Une fois suffit.
Bon, c'était pas la pire. Hein.
Non, c'est pas la pire.
Je te rappelle Spike Lee.
Allez, on commence avec Les Éternels, film de super-héros américain issu de l'univers Marvel et signé Chloé Zhao, doublement, vous le savez, oscarisé pour Nomadland, un film de 2h37 avec Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek, Angelina Jolie, j'en oublie. Ces éternels sont des extraterrestres cachés sur Terre au milieu des humains qui protègent l'humanité depuis 7000 ans, mais sans intervenir dans leurs conflits. Ils vont pourtant ici devoir affronter l'ennemi le plus ancien de la race humaine, les déviants, s'ils veulent sauver la Terre. Qu'en pense le déviant, Xavier?
Ben, que, heureusement que c'est marqué sur l'affiche que c'est du Chloé Zhao, parce qu'on a beaucoup de mal à retrouver sa
patte. Qu'est-ce qu'elle est allée faire sur ce terrain-là? Pareil,
c'était une grande fan de la Guerre des Étoiles quand elle était petite. Petite chinoise qui a grandi dans l'ombre des grands films de Lucas et de la... voilà, elle fait ce qu'on lui demande de faire, elle le fait pas mieux, elle le fait presque un peu moins bien d'ailleurs que ses prédécesseurs, parce que on lui confie donc les clés d'une nouvelle franchise, les Éternels, on les avait pas vus venir, et pour cause, parce qu'ils n'ont strictement aucun intérêt, c'est quand même des super-héros hyper écolo-friendly, ils recyclent tout, tous les pouvoirs on les connaît depuis très très longtemps, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça n'a pas grand intérêt, le scénario qu'elle a quand même co-signé de ses propres mains. Donc on a une première partie où on a les éternels, puis ils se foutent sur la gueule, donc en plus ils se déséternalisent, l'équipe se dissoude. Ensuite elle se ressoude à nouveau, c'est-à-dire qu'on reprend une heure pour les faire se réconcilier, et il reste 35 minutes pour le combat final qui est quand même exécuté à la serpe. On comprend pas grand-chose, il n'y a aucun enjeu, puisqu'on sait très bien que la planète a survécu, puisque nous sommes encore là pour subir le film. Donc honnêtement, c'est quand même très con de nous dire pendant 2h40, la Terre elle va exploser. Bah non, on est en train de voir le film, donc a priori, il s'est passé un truc positif, qu'il se passe. Voilà, c'est impersonnel, c'est sans saveur et c'est inutile.
Sophie ?
Contre toute attente, j'ai plutôt aimé, moi. Et alors pourtant, je sais que ce genre de film, je déteste. Hein, les blockbusters, j'en peux plus. Le monumental, le grand, le spectaculaire, les Marvel, tout ça, j'en peux plus. Et j'ai trouvé que Chloé Zhao tirait ça, chaque fois qu'elle le peut, vers quelque chose d'assez raffiné, d'assez mélancolique. Et j'ai trouvé assez amusant qu'elle utilise le talent de son personnage principal, Gemma Chen, qui pulvérise les choses et qui émiette et qui fragmente tout ce qu'elle trouve. Il y a une pluie de copeaux qui est comme une pluie de pétales à un moment donné, du pétale de coquelicot qui tombe comme ça parce qu'elle fait exploser un bus. Et j'ai eu le sentiment qu'elle appliquait ça à sa mise en scène. Et que chaque fois qu'elle peut fragmenter, chaque fois qu'elle peut émietter, chaque fois qu'elle peut rendre face à ce monument qu'est le genre, chaque fois qu'elle peut essayer d'aller dans la fragmentation, elle le fait, y compris la narration, 7000 ans, tu l'as dit, d'histoire, qu'elle résume avec des petits tronçons comme ça de flashback, etc. Et ça, ça m'a plu parce que j'ai trouvé qu'elle tirait du coup, le reste est assez idiot, hein, bien sûr, mais dans le genre, elle tire ça vers une vraie mélancolie presque poétique et féerique qui m'a plutôt plu.
Pierre,
c'est absolument nul. Non, mais c'est affligeant parce que en plus c'est bête. En plus, je veux dire que l'idée que ça dure. Pour les films qui se passent il y a 7000 ans, j'en ai. Mais alors rien à cirer, vous pouvez pas savoir. Et alors c'est.
D'autant qu'il n'y avait pas de cinéma à l'époque.
Ben oui.
Il y avait Michel Simon, mais il n'y avait pas de cinéma.
C'est héros, soi-disant super héros, mettent 7000 ans pour s'apercevoir qu'un dieu cruel les a bernés. Faut-il qu'il soit bête, quand même? Enfin, je veux dire, 7000 ans pour arriver à ça. Non.
Oui, mais Pierre, c'est non. Bien, c'est pas ça l'intérêt. Enfin, mais parce que tout c'est ça, c'est idiot, d'accord.
Attends, il n'y a aucun autre intérêt. Il n'y a aucun autre intérêt. Sinon, c'est en effet bien pensant, parce que l'une des éternelles s'exprime avec la langue des signes parce que ça fait bien. Il y en a un autre qui est gay parce que ça fait bien aussi. Non, tout ça est absolument intéressant. Quand je pense que Chloé Zhao, que je considère toujours comme une de la plus grande réalisatrice.
Le premier film était jusqu'à là. Son meilleur, son plus grand.
Ah oui, les chansons.
Les chansons, la Bee Rider aussi, qui est magnifique. Non, vraiment. Et dans Madland, qu'on a beaucoup défendu ici. Non, c'est la preuve qu'une très bonne réalisatrice, quand on lui donne un super objet débile, elle fait un super objet débile, elle peut rien faire d'autre.
Eva ?
C'est très, très laid. En fait, c'est laid. Il y a le glooby-glooba, il faut qu'il y ait de tout, tous les poncifs qui correspondent à l'époque. Il y a toutes les cultures, ça va de Bollywood, etc. Et tout ça fait une sorte de mixture très vilaine. Vraiment, à la limite, le passage Bollywood est le plus joli, parce qu'au moins il danse. Il y a un rebondissement.
Elle n'a jamais vu un Bollywood de sa vie.
Je ne dis pas le contraire, mais au moins il danse. On dit que dans un film, il faut réussir les méchants. Les déviants, ils ont la forme de dinosaures, mais écorchés. Ils ne font pas peur, puisqu'on sait que de toute façon, les autres ont tous les pouvoirs, il ne se passera rien. Il y a un rebondissement, qui devrait être un véritable rebondissement, où on reverrait tous les films à la lumière d'une certaine malignité d'un des personnages, je n'en dirai pas plus. Il a la force d'un beignet qui tombe, tellement c'est mou quand ça arrive. Je cherche quelque chose à sauver, je ne vois rien.
Eric ?
Je ne l'ai pas vu, c'est beaucoup trop
quelle
intellectuel
chance.
Pour moi.
Alors, je suis désolé de vous dire que mercredi dernier, ça a été un triomphe. Oui. Ça, les chiffres sont éternels. Hein. Les Éternels, c'est donc le film de Chloé Zhao, Les Olympiades. Ça, tu l'as vu, ça, Eric?
Oui.
De Jacques Audiard, qui était présenté en sélection officielle au dernier Festival de Cannes. Un film en noir et blanc, avec une très brève scène en couleur, hein, c'est quelques secondes, inspirée de la BD Les Intrus du dessinateur de New Yorker Adrian Thomin. Et ça se déroule dans le quartier parisien des Olympiades, dans le 13e arrondissement. Un film qui est co-scénarisé d'ailleurs par Céline Sciamma. Tout commence par la relation torride entre Émilie, qui est jouée par Lucie Zhang, téléconseillère d'origine asiatique, et son colocataire Camille, Makita Samba, qui lui est noir et prof, et qui, je cite Camille, hein, compense sa frustration professionnelle, comme Eric, par une activité sexuelle intense. Camille va ensuite se reconvertir dans l'immobilier, un peu comme toi aussi, où il craque pour son assistante venue de Bordeaux, Nora. C'est Noémie Merlan, qui est dans tous les films, hein, pour l'instant. Nora, là, qui, après bien des déboires, va craquer pour Amber Sweet, une travailleuse du sexe en ligne, jouée par la chanteuse Jenny Beth, une rom-com, une comédie romantique trash, sur le polyamour et sur la mixité sexuelle qui dure 1h46. Eric.
Au départ, je me suis mépris sur le titre parce que je croyais que les Olympiades, c'était le nom de ces résidences pour troisième âge. Et en réalité, c'est les Hespérides. Les Olympiades, c'est exactement le contraire. Il n'y a que des jeunes qui habitent dans ces immeubles. C'est d'ailleurs aussi un peu un film comme Le Dernier Tango sur la crise de l'immobilier dans Paris, où on voit que les gens sont prêts à tout, même à coucher ensemble pour obtenir un appartement, le partager, payer moins cher le loyer. Et là, il y a le melting pot qui fonctionne, il y a un noir, une asiatique et même une bordelaise. Et ce qui est marrant, c'est que ça n'intervient pas du tout dans l'intrigue. La couleur de peau, les métiers, tout ça se mélange avec une fluidité, une douceur assez confondante. On pense aussi au Dernier Tango parce qu'on voit beaucoup le métro aérien. Le film est en noir et blanc et réussit à rendre ce quartier presque aussi joli que le Manhattan de Woody Allen. Et c'est quelque chose de curieux parce que je m'étais dit... Ça va être le meilleur film de Céline Sciamma, donc le moins bon d'Audiard, mais c'est pas ça non plus. C'est un drôle d'objet, c'est comme du Romère, on pense à Ma nuit chez Maud aussi, mais alors si Romère voyait les scènes de sexe et entendait certains dialogues, il deviendrait rouge comme une tomate.
Enfin, il n'y a pas de scène de sexe. Hein,
un petit peu quand même. Tu vois même quelqu'un se mettre un ruban adhésif autour du ventre pour maigrir. Moi, je ne savais pas. On apprend un tas de choses comme ça. On apprend aussi que si votre grand-mère a Alzheimer dans son EHPAD, vous payez quelqu'un pour aller la voir. Comme elle ne vous reconnaît pas, de toute façon, elle ne fera pas la différence.
Eva.
Alors là, le film semble avoir, si on regarde à plat, un programme chargé. La mixité, le harcèlement, l'amour tarifé par Internet, une relation d'amour entre deux femmes. Et il arrive à ne pas faire un film programme. On se dit qu'avec un sujet pareil entre les mains d'un tâcheron, ce serait terrible. Et il l'emporte avec une sorte de grâce. Tout ça coule. Et ce que je trouve très, très réussi, c'est que justement la question de un noir, une asiatique ne se pose pas, n'est ni un sujet, ça, c'est comme ça, ça coule. S'il est un tout petit peu politique, ce serait dans cette manière justement extrêmement naturelle d'être d'après tous ces discours dessus, sans que ce soit mis en évidence. Et je trouve que ce film a une sorte de grâce, oui, il fait un mélo. Alors on sait avant certains protagonistes qui sont faits l'un pour l'autre, et il arrive à nous faire, je ne vais pas déflorer le film, hein, mais une histoire de téléphone ou même d'interphone, il nous fait ce coup là et on est super content. Donc oui, c'est un mélo qu'il fait à sa manière
mais
et très bien.
Il y a aussi une violence quand même que vous semblez un peu sous-estimer, je trouve, dans ce film, Xavier.
Moi, je n'avais pas été un grand fan du film à Cannes, mais je l'avais vu tard le soir, j'étais peut-être passé à côté, donc je vais redonner une chance là, le sachant programmé. C'est quand même pas un film inintéressant, d'abord parce que c'est la rencontre entre une cinéaste, scénariste là, dans ce cas précis, qui a merveilleusement écrit pour les femmes, et on l'a souvent dit avec Sophie ici, et d'un metteur en scène qui filme très bien les hommes aussi. Et sur ce terrain de rivalité où rien n'est acquis, je trouve que les deux fonctionnent de manière très synergique, avec une interaction extrêmement intéressante à la fois dans les dialogues, dans les propositions de situation, dans la manière dont les personnages traversent le cadre, se croisent, se décroisent, se rencontrent. Et je trouve que la mise en scène de Audiard, à laquelle je suis pas toujours sensible, arrive à créer une espèce de sensualité urbaine. On parle souvent de la solitude urbaine, et c'est un petit peu le sujet aussi de temps en temps. Et là, il y a une vraie sensualité à travers, effectivement, la manière dont le décor fonctionne aussi comme, comme manière de protéger un tout petit peu les protagonistes du film. Je trouve que c'est extrêmement fin, c'est extrêmement délicat. Après, la grande question, ça me raconte pas grand chose, et je sais pas très bien à quoi m'accrocher en sortant du film. Les sujets sont un petit peu génériques, un tout petit peu passe-partout, mais il faut reconnaître que c'est un objet pas inintéressant.
Pierre.
Je rejoins tout à fait Xavier sur la mise en scène. Moi, j'ai été vraiment frappé par l'élégance de la mise en scène. C'est-à-dire que chaque plan dure exactement ce qu'il faut. Ça glisse constamment. Il y a des raccords dans l'axe qui sont... Mais techniquement, je trouve ça d'une fluidité. C'est vraiment...
Le noir et blanc ajoute d'ailleurs à cette fluidité.
Mais indépendamment de ça, il y a une espèce d'élégance et de violence en effet mêlée dans la mise en scène. Mais à part ça, c'est un film très romantique parce qu'en fait,
oui absolument, c'est grand comme.
Non, mais en fait, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire que on sait bien que l'un des films préférés de Jacques Audiard, c'est Ma nuit chez Maud. Tu faisais allusion et donc sauf que dans Ma nuit chez Maud, on parlait beaucoup, on ne faisait pas l'amour. Là, on fait beaucoup l'amour avant de parler en quelque sorte. Mais c'est un film.
Non, en parlant, c'est plus compliqué.
Oui, que ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Non, mais la seule chose qui m'a paru un peu bizarre, c'est j'ai eu l'impression d'un cinéaste qui regardait avec beaucoup de tendresse et un petit peu d'étonnement une génération qui lui était évidemment totalement étrangère. Il filme ça comme des hurons un tout petit peu. Il s'étonne lui-même. Mais il y a une grande tendresse. Hein. C'est pas du tout.
C'est pas honnête. Hein, c'est il pas est pas de leur génération.
Non, mais c'est pas du tout la distanciation. C'est pas du tout ça. Mais il regarde
mais
ça.
Mais il filme pas comme des étrangers. C'est pas vrai.
Pas comme des étrangers. Mais des gens qui sont un peu loin de lui et loin du cinéma qu'il aime en quelque sorte. Voilà. Et juste un truc. Il me semble que sur un sujet aussi romantique et beau, il y avait un film qu'on a un peu oublié de Jean-Paul Sivérac qui s'appelait Mes Provinciales.
On en avait parlé
beaucoup plus fort sur le sujet.
On en avait parlé en noir et blanc.
Était sur le sujet beaucoup plus
fort. Très cinéphile.
Beaucoup plus long aussi. Hein.
Oui, mais fort.
Sophie.
Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve que c'est un réjouissant modèle de film inclusif et on a le sentiment qu'il a pris même plaisir à se fixer des règles comme ça, même si ça vient de Cinciama sûrement. Mais quand même, on a l'impression qu'il joue avec ses règles de diversité. Quoi. Il y a un peu comme les Oulipiens. Il y a quelque chose de cet ordre-là et qui savoure et ça pourrait, alors en effet il y a vraiment, comme l'a dit Eva, il y a toute orientation sexuelle, toute couleur de peau, il y a même le fantôme du handicap qui rôde autour du film puisqu'il y a un fauteuil de handicapé, enfin tout est là en effet, et en effet ça devrait être extrêmement théorique, tout ça devrait être fabriqué, etc. Et en fait Jacques Audiard fait du Jacques Audiard, c'est-à-dire qu'il a toujours fait la même chose. Il filme quoi ? Il filme des gens qui apprennent à aimer. Toujours, il a toujours filmé ça. Et là, à nouveau, il filme des gens qui apprennent à aimer, des gens qui ne se connaissent pas très bien, qui croient qu'ils se connaissent, mais soit par candeur, soit par arrogance, ils ne se connaissent pas si bien que ça. Et ils apprennent des autres qui ils sont, et ils apprennent des autres ce qu'est l'amour. Et je trouve ça assez beau. Quoi. Le film
Les Olympiades, c'est signé Jacques Audiard. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public ici ? Non. Toujours à Cannes, où il a reçu la Queer Palm, et en compétition, il y avait La Fracture de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaille. On est à l'hiver 2018, alors que le mouvement des Gilets jaunes bat son plein. Et aux urgences d'un hôpital en grève, débarque Raph. C'est donc Valeria Bruni Tedeschi qui s'est fracturé le bras et qui vient de se séparer de sa compagne, Julie, qui est jouée par Marina Foïs. Et couché sur le brancard d'à côté, il y a Yann, qui est Pio Marmaille, un chauffeur routier salement blessé par une grenade pendant une manif de gilets jaunes. Et le film va montrer, caméra à l'épaule, la cohabitation, un peu incertaine, il faut dire, dans un hôpital en surchauffe, qui est cerné par les forces de l'ordre, entre cette bobo surexcitée et un militant très en colère. Il y a un côté un peu Ken Loach sous oxygène, bordélique, que moi j'ai trouvé souvent drôle. J'ai trouvé la presse un peu dure pour ce film. Sophie.
Je trouve que le film est passé à un cheveu d'être formidable. Il y a une très bonne idée de départ, mettre sous le même toit de ce dernier refuge d'une société malade, l'hôpital qui lui-même n'est pas en très bonne santé, des gens de toute origine, de toute classe sociale, des bobos, des gilets jaunes, etc., comme tu l'as dit. et porté par un couple qui est un couple à la fois moderne, en effet assez drôle, grâce au génie comique de Valeria Bonifacio.
Les échanges de textos au tout début qui ouvrent le film.
Vraiment, l'ouverture du film, elle est géniale. Et vraiment, ça doit beaucoup, effectivement, à la composition du couple, qui est quand même très savoureuse. Après, il me semble que dans la deuxième partie, le film s'épuise un peu à sa propre démonstration. Et je me suis demandé pourquoi. J'ai eu l'impression que c'était peut-être parce qu'il y avait une surenchère d'événements, de cata, une surenchère de trucs qui vont pas, etc. Et que c'était peut-être ça qui... Et je crois que c'est pas ça, que c'est plutôt la surenchère des mots qui sont employés. Parce que ces mots-là, ces phrases qu'on a beaucoup écoutées, qu'on a beaucoup entendues, qui sont des phrases liées à des revendications absolument légitimes, qui sont « nous ne sommes pas respectés, nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes pas assez payés, nous ne sommes pas assez considérés, etc. etc. », ces mots-là, tout à coup, sonnent dans le film, en tout cas à mon oreille, comme des slogans et non pas comme des souffrances. Et là, il me semble qu'il y avait un écueil cinématographique que Catherine Corsini n'arrive pas très bien à négocier. En dehors de ça... je trouve qu'il y a une humanité dans le film, rien que l'histoire entre Marina Foïs qui va vers Jean-Louis Colloque, cet acteur merveilleux qui jouait dans Lady Chatterley, ce copain de classe qu'elle ne veut pas voir au début et puis finalement elle accepte de le voir. Rien qu'avec cette histoire, je trouve que là elle arrive à montrer à la fois du social et quelque chose de très profond.
Le trio est quand même formidable. Enfin, Eric.
Ah oui, c'est une bonne surprise, parce que Corsini, a priori, c'est pas une rigolote. Et là, elle réussit un mélange de drame social et de comédie. Et c'est ça qui est curieux. C'est ce huis clos dans cette salle des urgences, avec toute cette société sur le point d'exploser. On voit toutes les frustrations de la France d'aujourd'hui. Et elle réussit un truc, c'est montrer l'actualité. D'ailleurs, à la limite, c'était peut-être même pas la peine de dire que c'était les Gilets jaunes. Il suffisait de mettre une manif dehors, ça marchait aussi bien. Et on voit là...
C'est un contexte quand même particulier, hein.
Ça peut être une manif qui a mal tourné, parce que les Gilets jaunes, peut-être que dans 10 ans, on saura plus du tout ce que c'est, alors qu'une manif, ça existera toujours. Enfin, il y aura peut-être encore les ronds-points le samedi, tu as raison. Mais là, elle réussit à mettre tous ces gens ensemble. Elle a un œil, une vérité. Il y a la vieille dame bien élevée qui ne veut surtout pas déranger sur son brancard. Il y a Pio Marmaille, lui, qui est complètement azimuté là, en chauffeur de 26 tonnes. Il y a Valeria Bruni qui fait du Valeria Bruni, mais elle a raison parce que c'est elle qui le fait le mieux et là le rôle veut ça. Et Marina Foïs, elle est épatante en fille qui
elle n'en peut plus, hein, dans le film. Elle craque,
mais on lui pardonne tout d'un coup sa prestation au César grâce à ce film-là.
Xavier.
Mais je vais pas casser l'ambiance, je vais vous laisser. Il y a beaucoup de bien de la fracture que je trouve absolument consternant du début jusqu'à la fin.
Allez, on va rentrer dans
cette ouverture que tu trouves formidable sur les textos m'a déjà horripilé et j'ai été horripilé le temps du film, donc jusqu'à son extrême.
Jusqu'au bout,
je n'ai vu que des ficelles dramaturgiques d'une lourdeur sans nom consistant à faire ramener les personnages à des endroits très précis pour que la situation puisse évoluer, on dirait du tête de boulevard, quand elle s'échine à rassembler Valeria Bonitodeschi, dont il faut saluer l'évolution de la carrière. Bourgeoise névrosée jusque-là, et désormais bourgeoise névrosée lesbienne, donc il y a une vraie évolution, je crois qu'il y a une prise de risque extraordinaire, bravo Valéria Vasi. Le film, moi j'ai entendu à Cannes, c'est formidable, c'est enfin une porte ouverte, un écran ouvert aux fractures du monde, à la réalité mon cul, enfin je veux dire, tout ça est totalement artificiel, elle fait ramener les gens, mais elle est obligée de saturer le cadre, non seulement il y a les manifestations, ensuite il y a les flics qui donnent l'assaut, ensuite il y a le schizophrène qui a oublié de prendre ses médicaments, ensuite il y a le père avec le bébé qui arrive, non, je t'ai plus, alors on est bloqué.
Mais t'es jamais allé la nuit aux urgences, mon
mais
gars.
Mais si, je l'ai faite, alors arrête, dans mes études,
les gens
je l'ai faite.
Quand ils te voyaient.
Je te rappelle que Xavier a été médecin.
Et je ne vois que...
Non, il n'a pas été médecin, il avait 4 ans de médecine.
4 ans de médecine, non, 5 ans.
C'est pas médecin.
Je suis allé jusqu'en 5e année. C'est le sujet, ne perdez pas du temps.
5 premières années.
Je trouve que ça ne fonctionne à aucun moment. Tout m'exaspère, tout m'horripile, parce qu'en plus, évidemment, je pense qu'elle croit vraiment dire quelque chose de la réalité de ce monde.
Oui, bien sûr.
Et qu'elle est obligée d'avoir recours à des artifices d'écriture, mais d'une lourdeur absolue. Donc je suis désolé, si vous voulez voir une fiction sur la réalité de l'hôpital, je vais faire engueuler par un auditeur qui déteste quand je dis ça, voyez la série Hippocrate de Thomas Lutti sur Canal.
C'est une émission sur le cinéma, on n'est pas le samedi soir.
L'inverse, mais non.
On n'écoute pas une heure en série, mais le masque et la plume.
Dans la série de Lutti, alors que là, Corsini est obligé de tout faire rentrer pour que ça puisse exploser, elle n'a rien compris.
Pierre ?
Non mais... Je suis d'accord avec toi d'une certaine façon. Tout ce que tu viens de dire, c'est vrai, sauf que ça marche.
Eh oui.
Non.
Eh oui.
C'est ça le problème. Non, mais tu as raison. C'est vrai que c'est fait à la truelle, mais c'est un pamphlet. Donc elle exagère, évidemment.
Elle ne veut pas faire un pamphlet.
Si, elle veut faire un pamphlet. Un pamphlet pour l'hôpital, pour le sort des infirmières magnifiques, contre les flics.
Contre
les...
la pluie en été.
Pas du tout contre les flics qui veulent entrer dans l'hôpital pour aller continuer à tabasser les manifestants. Non, non, elle veut faire un pamphlet, mais elle arrive par espèce de fougue, par tout ce que tu viens de dire, cette accumulation de clichés, car il y en a, bien sûr, elle arrive à faire quelque chose qui fonce, qui va jusqu'au bout. Mais c'est Chicago Med. Non, mais c'est une série.
Autre série, oui.
Autre série, c'est Chicago
Med. Vous
Med,
me fatiguez avec vos séries.
Mais c'est très bien. Mais c'est aussi passionnant que ça. Et il y a une, elle réussit quand même quelque chose qui est de l'idéalisme très généreux. C'est le lien qui se crée entre Pio Marmaille et Valeria Bruni Tedeschi. Et ça, c'est de l'utopie pure. Et c'est très, 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 très bien.
C'est bien écrit.
J'ai pas du tout la même lecture que toi, Pierre. C'est pas du, au contraire. Moi, je trouve que ce qui m'intéresse dans son point de vue, c'est que elle est du point de vue de deux bourgeoises qu'on imagine de gauche, plutôt ouvertes, et on voit les limites de la bourgeoisie de gauche. C'est-à-dire que Marina Foïs veut bien mettre du sérum physiologique dans les yeux de gens qui ont pris des gaz lacrymogènes, et puis elle rentre chez elle. Et il ne se passera rien de plus.
En volant le matériel de l'assistance publique.
Non, mais chacun reste dans son camp. Et c'est en ça que je trouve que le film intéressant. C'est en ça que je le trouve honnête. Et là, en revanche, moi, où je ne suis pas d'accord, c'est qu'au début, le cabotinage, le personnage de Valeria Bruni Tedeschi et le couple avec Marina Foïs ça marche. Et au bout d'un moment, elle fait deux cabotins, Pio Marmaille et Valeria. Ils finissent par s'anéantir, ils deviennent deux cabots. On a envie de dire, mais tu veux qu'on écoute les Gilets jaunes ? Fais les taire et laisse-moi
mais
écouter
non, il se
la
passe
vie.
Quelque chose entre...
Et donc, je trouve que ce cabotinage, au bout d'un moment, dessert le film. Ouais, on a envie de dire, ça suffit, tais-toi. Voilà.
La fracture, c'est Catherine Corsini. À Cannes, toujours décidément, enfin une soirée très cannoise, il y avait en compétition, en noir et blanc et en couleur, The French Dispatch de Wes Anderson, avec votre chouchou, Timothée Chalamet, mais aussi Benicio del Toro, Bill Murray, Adrian Brody, Frances McDormand, Tilda Swinton, Mathieu Amalric en commissaire, Damien Bonnard en policier, mais pas policier bipolaire. J'en oublie, ah oui, j'allais oublier. Et bien sûr, avec Léa Seydoux, notre copine. The French Dispatch, c'est le titre d'un journal américain dont le rédacteur en chef, joué par Bill Murray, envoie depuis Angoulême, enfin depuis Ennui sur Blasé, ses reporters aux quatre coins du pays pour enquêter sur un détenu psychopathe et peintre, ça c'est Del Toro, dont la gardienne et modèle elle est assez doux, sur les événements de 68, où Timothée Chalamet monte sur les barricades, ou encore la gastronomie française, version policière. Alors, il mêle les époques, les formats, les références, dans un film conçu comme un numéro spécial et nécrologique. De ce French Dispatch, visuellement, il faut dire, comme toujours, assez délirant avec Anderson, mais un peu, quand même, déroutant. Eric.
C'est déroutant pour les gens qui ne connaissent pas Anderson, mais sinon on retrouve tout ce qui est bien chez lui. Il faut le voir deux fois ce film parce que il est tellement riche. Il y a tellement de choses dans chaque
personne
image.
Personne ne mérite ça. Non, pas du tout.
Si Eva et moi, je vais voir une troisième s'il le faut, parce qu'il y a tellement de détails dans tous les coins de l'image qu'il faut ouvrir l'œil en permanence. Et le film est peut-être un petit peu conceptuel puisque c'est
non, tu crois vraiment?
Mais c'est pas grave. C'est un hommage au New Yorker, au journalisme, snob et intello à l'ancienne.
Ça, on avait compris. Hein.
Oui, mais c'est obligé que ce soit comme ça.
C'est un sketch.
Et alors?
Non, ça fait un tout quand même.
C'est vraiment la dévotion d'Anderson pour la France telle qu'il la rêve, telle qu'il l'a imaginée, telle qu'il la regrette peut-être.
Ennui sur Blasé, tu parles, oui.
Ben oui, mais ça peut être l'inverse aussi. C'est ça, c'est plein d'humour. On retrouve toute sa carrière d'acteur. Et il y a une invention, il y a une technique, il y a une imagination et un plaisir de filmer tout ça. Il y a des gags, les cigarettes s'appellent gaullistes, il y a tout un tas de références marrantes. Et cet Anderson, moi, il y a une fantaisie à la Alexandre Vialat, pour un Texan. Je trouve ça très, très intéressant et inattendu qu'on puisse penser à ce romancier auvergnat.
Pierre.
C'est un cas d'école.
Ah oui.
Il faudrait enseigner ça dans toutes les universités. Comment un cinéaste, relativement doué, pas génial comme on le dit, il faut aller vite, mais très doué, c'est vrai, peut en arriver à rater un film aussi totalement. Il n'y a pas
un gag. Je crois qu'il y a des réactions.
Il n'y a pas un gag qui soit réussi.
Mais même pas l'épisode Benicio del Toro.
Non, non, je vous assure que c'est l'admiration béate que vous avez pour Wes Anderson, et c'est votre droit le plus strict, bien entendu, mais qui vous pousse à dire
pas
ça.
Du tout.
J'ai jamais vu ça. C'est un désastre. C'est-à-dire qu'il y a, ça pourrait être bien. Par exemple,
Le premier sketch avec Léa Seydoux.
Et, on la voit nue, hein, pour ceux que ça intéresse.
Ça pourrait être intéressant, là, un psychopathe qui est génie de la peinture, etc. C'est lent, c'est long. Alors oui, il y a des mouvements.
Mais c'est d'une rapidité avancée.
Oui, c'est d'une rapidité, mais c'est tellement que c'est maladroit que ça en devient lent. C'est un échec total, mais c'est pas grave. Il a du talent, il fera autre chose. Hein.
Mais qu'est-ce que tu as écrit?
Et tu sais ce que t'aurais dit, le rédacteur en chef?
Non, c'est affreux.
Faites comme si vous l'aviez écrit de cette façon exprès, et ça te convient parfaitement ce que tu viens de dire.
Exactement, il fait ce que fait le rédacteur en chef de ce journal. Il laisse toute liberté à des gens qu'il estime doués pour raconter l'histoire qu'ils veulent, et il pense que ça pourra intéresser même à Kansas City. Parce que justement, il y aurait eu plus.
Ça, c'est en théorie.
Et c'est ce qu'il fait.
Mais ça, c'est la théorie.
Mais non, c'est pas la théorie. Tout le film qu'il fait. Le film qu'il fait, c'est comme dans un journal. Un journal, c'est quoi? Tu as une histoire de politique étrangère, de faits divers, etc. Et qu'est-ce qui fait le tout? Que tu lis Libé ou Le Figaro? C'est la couleur de l'ensemble. C'est l'âme du journal.
Et
bien, qu'est-ce qui fait que c'est le regard. À la fois, il te montre des exilés qui sont reconnaissants vis-à-vis de la France, comme le cuisinier japonais. Moi, je l'ai vu deux fois. La première fois, je reconnais qu'au bout d'un moment, on est terrassé. J'ai envie de dire, il y en a trop. Mettez arrêt sur l'image que je puisse digérer. C'est pour ça que je dis la vérité, que je suis retournée.
Donc,
tout le monde ne verra peut-être pas deux fois. C'est vrai qu'à un moment, c'est un peu beaucoup. Donc, il faudrait, voilà. Mais c'est un film qui vous donne trop, alors que certains films vous donnent rien. Franchement,
Xavier,
de quoi se plaindre.
J'adore que tu parles de liberté alors qu'il n'y en a aucune laissée ni aux comédiens ni aux spectateurs. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans ce truc. Non, non, c'est pas la liberté. La liberté, c'est d'avoir quand même une espèce de libre arbitre dans la manière d'accéder au film ou à l'œuvre. C'est quand même, moi j'ai eu l'impression de garder mon petit cousin qui aurait une super boîte Polly Pocket et qui jouerait toute l'après-midi devant moi en me disant « Regarde comme je t'ai bien fait jouer avec des Polly Pocket !» Oui, oui, c'est très bien. Deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, c'est inepte en termes de scénario. Je suis totalement d'accord avec Pierre. Il y a des dialogues, il y a une sorte de faux James Baldwin dans le troisième sketch qui se perd dans un commissariat, ce qui permet à Wes Anderson de faire 28 décors inutiles, hyper chers, que le pauvre type traverse. Et on a ce dialogue absolument génial. J'ai la phobie des labyrinthes, je m'y perds toujours, c'est compliqué pour un homosexuel. Si tu arrives à m'expliquer cette phrase-là en moins de deux heures, écoute,
mais déjà,
je suis absolument ravi parce que je pense que j'ai loupé
déjà
un épisode de mon existence.
Tu l'as retenu.
Tu vois, tu n'as pas rien.
C'est la peur de l'écran vide. C'est-à-dire qu'il faut constamment saturer de quelque chose pour faire croire qu'on fait de la mise en scène. Mais ça n'est pas de la mise en scène. Ça n'est rien d'autre qu'une espèce d'exercice de petit malin qui adore ce qu'il fait et qui se fout totalement de savoir quel plaisir on peut en prendre. Eh bien, je suis désolée, on n'y prend aucun plaisir.
Sophie.
Moi, j'ai trouvé ce film absolument extraordinaire.
Ah, merci Sophie.
Oui, c'est un film conceptuel. Oui, c'est un film qui est riche. Oui, c'est un film qui prend la tête. Oui, c'est un film qui prolifère. Oui, c'est un film qui est rhizomique et tout ce que vous voulez. Oui, il faut le revoir deux fois, je suis bien d'accord. Moi, j'étais complètement... pour une fois, on a du travail en tant que spectateur dans ce film-là. Oui, mais c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Je ne sais pas si c'est un film de grand malade ou un grand film de malade. Oui, c'est un film de malade, mais il y a du génie et il y a de la folie et c'est délirant, mais c'est magnifique. C'est un hommage à toutes les formes narratives, c'est un hommage au récit, c'est un hommage à l'écriture, aux plumes, aux grands récits journalistiques. Et donc lui, et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve des équivalences extraordinaires en termes de mise en scène, de grammaire cinématographique, comme tu aimes, toi.
C'est de la grammaire théâtrale qu'on a vu un milliard
de fois. Il arrive à trouver pour moi, en termes de plan et de mise en scène, des équivalences à cette diversité narrative proliférante et extraordinaire. Et ces personnages ont grandi. Ces personnages ne sont plus les silhouettes stylisées comme ça qu'il avait jusqu'à présent. Ils sont devenus mur pour raconter une histoire d'un monde qui est mort, pour raconter l'histoire de quelque chose qui n'existe plus au moment où ils deviennent grands. Donc c'est à la fois funèbre, c'est un embaumement et en même temps, comme ça va très vite, c'est du vif argent ce film. Il est extraordinaire.
The French Dispatch de Wes Anderson. Vous avez le droit de prendre la parole.
Bientôt disponible en Playmobil, hein, je vous rassure.
Est-ce que le micro... Est-ce que vous voulez le micro, monsieur?
Non, je n'ai vraiment rien à ajouter. L'article de Mademoiselle Avon dans Sud-Ouest est génial aussi.
Fais venir tes copains, Sophie. Achète le public, la claque, les illusions perdues.
J'ai les payés chèrement.
Ça lui coûte cher, ces émissions.
Ah ouais, c'est vrai.
Pas d'autres réactions sur le film de Wes Anderson? Non. Lui de Guillaume Canet.
Ah, bah, on passe
avec
autre chose.
Guillaume Canet.
Alors là.
Virginie Efira, Laetitia Casta, pas de Léa Seydoux, mais Mathieu Kassovitz, Nathalie Baye, Patrick Chenet. Au début, on se dit qu'on va prendre un bon bain d'air pur, iodé. On suit Guillaume Canet à ce qui m'a semblé être Belle-Île en mer. Je ne sais pas ce que c'est.
C'est ça, oui.
En tout cas, c'est... Alors, il est donc Guillaume Canet, puisqu'ils ont leur nom. Hein. Il est compositeur, il est en panne d'inspiration. Il n'arrive pas à honorer ses engagements. Il laisse derrière lui sa femme et ses enfants pour s'isoler donc dans une maison blanche située au bord d'une falaise et qu'il a loué à un vieux fou, assez inquiétant d'ailleurs. D'ailleurs, la maison, elle est hantée. Maison dans laquelle il martyrise un vieux piano désaccordé. Jusque-là, tout est sous contrôle. Hein. C'est alors qu'apparaissent, en chair et en os, sa femme, Virginie Efira, sa maîtresse, Laetitia Casta, qui font lit commun avec son vieux copain Kassovitz, c'est un classique, hein. Puis débarquent ses parents, Nathalie Baye et Patrick Chenet, qui le gronde, sans compter le double menaçant de Guillaume Canet soi-même. Ça, c'est la fin du film. C'est pas du cinéma, c'est de la psychanalyse, évidemment,
oui,
à bas prix. Ça a quand même une immense vertu. Ça dure 1h28. C'est le plus court de ce soir. Sophie, est-ce que tu auras les mêmes accents que pour Wes Anderson?
Oh, y a, mon Dieu. Comment dire? Comment
tu as fait, d'ailleurs, tu as fait un très bon article dans Sud-Ouest aussi. Hein.
Merci, Jérôme. Non, mais comment dire, d'abord, rien. Alors, bon, il a beaucoup dit qu'il adorait Blier, et donc il fait du Blier.
C'est du Blier.
Mais du mauvais Blier, hein. C'est-à-dire, quand on les voit tous débarquer au bout d'un moment, qui sont dans sa tête et qui débarquent tous, là, on n'en peut plus. Mais même sans aller chercher ça, le simple fait que lui, metteur en scène, acteur, se voit dans un rôle, se projette dans un rôle dont la femme est Virginie Efira et dont, en toute modestie, la maîtresse est Laetitia Casta. Rien que ça, je sais pas comment il s'est pas dit quand même, non, pas trop de vanité quand même. Je mets pas en doute son charme, c'est pas le problème, mais quand même.
C'est pas ça le point faible du film, quand même.
Oui, parce que ça dit beaucoup.
Tu trouves que c'est prétentieux, ça?
Ah ouais. Je trouve que là, il est plus clairvoyant, quoi. Enfin, j'ai pas tout à coup.
T'aurais voulu qui?
Mais je sais Marion pas. Cotilla. Mais franchement, sa femme, c'est Virginie Efira, et sa maîtresse, c'est Laetitia Casta.
Oui,
vous trouvez pas? Je sais bien.
Non, c'est pas ça qui me choque dans le film.
Moi, je trouve que ça fait partie de ce qui est détestable dans le film parce que ça rend compte de son égocentrisme, ça rend compte de son manque de clairvoyance. Il veut faire quelque chose de léger, il veut faire du cinéma, il croit que tout est permis. Eh ben non, au cinéma, tout n'est pas permis. On peut pas faire sortir du chapeau comme ça toute la famille qui débarque. On peut pas faire ça. On peut pas faire une guerre fratricide entre soi et soi sans
qu'on voit l'écran.
Il
faut expliquer qu'on la voit vraiment à l'écran en plus.
Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le béaba de la réflexion, quoi. Enfin, je veux dire sur le combat qu'on mène avec soi-même contre le méchant soi, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'il fait. On peut pas faire ça comme ça légèrement en disant mais comme ça sera rigolo. Ben non, c'est emmerdant. C'est pas rigolo. C'est mauvais, quoi. C'est juste mauvais. Et c'est vraiment d'un simplisme que je trouve assez décourageant.
Alors, il paraît qu'il l'a écrit pendant le confinement, ce film.
Et donc c'est tard.
Voilà. Non mais il explique pourquoi c'est mauvais. Il l'a fait vite et perdu sur une île. Eva.
Eh ben justement, le cinéma, ça demande quand même du travail. Il l'a fait trop vite.
Mais pourquoi tu me dis ça à moi?
Parce que je te parle.
Elle me dit ça.
Tu me dis ça. Oui.
Voir les films, c'est aussi du travail.
Je parle à Guillaume Canet, là.
C'est même une punition.
C'est pas parce qu'il aime les chevaux que tu me parles comme... Hein.
Je parle à Guillaume Canet à travers toi. Donc, le cinéma, ça peut pas se faire comme ça. Surtout quand on veut faire un film pseudo-psychanalytique, qu'on peut avoir soi et son double, etc. Ça s'écrit pas comme ça. Quand j'ai vu ce film, au départ, j'étais plutôt agréablement surprise pendant 5 minutes parce que je me disais un type qui va faire un film pour se moquer de lui-même, ça peut être plutôt sympathique. Ça dure un tout petit moment, mais pas très longtemps. La maison qui grince, les gens qui ont une mine patibulaire dans le village, enfin bref, tout ça, ça peut encore tenir. Et en fait, la femme, la maîtresse, le pseudo oublié ou Dupontel, enfin la psychanalyse avec moi et mon doux, ça marche pas du tout. Et surtout sur le fond. Ben, il s'aime bien, quoi.
Ben oui,
je suis un type un peu râleur, un peu machin, mais ça va, quoi, je m'aime bien. Il s'est jamais mis
en danger. Pourquoi tu parles comme ça, toujours? Elle parle qu'à moi.
Mais qu'est-ce que tu veux que je regarde? Le mur? Je m'adresse, il faut bien que je parle à quelqu'un.
Parle-moi,
Guillaume, réponds-moi, Canet.
Éric.
Bah, y a un piano désaccordé et c'est comme le film, hein. Y a pas une note juste là-dedans. C'est raté, mais de A jusqu'à Z. Et même plus que ça, faudrait qu'il y ait plus de 26 lettres à l'alphabet pour rendre compte du désastre qu'est ce film. Parce que c'est pas lui que ça devrait s'appeler, c'est moi. Parce
oui,
que, il y a Canet, il y a le double de Canet, comme si un seul ne suffisait pas. Il se prend pour Bertrand Blier, mais les dialogues sont mauvais, c'est écrit, mais pas à la truelle, là, c'est avec une pelleteuse, ou un, c'est, et puis des références, il y a un couteau dans le ventre, comme dans Buffet froid, il y a trois à trois dans un lit, comme dans,
qu'est-ce que Kassovitz est allé faire là-dedans?
Il y a la maîtresse, comme dans Trop belle pour toi. Là, d'ailleurs, faudrait que Efira fasse attention, parce que Benedetta, ça, et bientôt, en attendant Bojangles, c'est une très bonne actrice, mais elle va y laisser des plumes, là. C'est terrible. Et ça devrait s'appeler, d'ailleurs, préparez vos petits mouchoirs. Et c'est dommage, parce que la maison est très bien, mais il y a un drame, c'est que, après ça, ils vont plus pouvoir la louer, hein, à Billy.
Xavier?
Moi, j'ai cru pendant 10 minutes. C'est emprunt au genre, avec un peu de surréalisme.
Oui, mais on a tous, on y a tous cru. 10 minutes, c'est ça.
Ouais, 10 minutes,
moi
voilà,
qui déteste la campagne, a fortiori les maisons isolées où il y a plein
c'est
de
pas la campagne. C'est la mer.
Enfin bon, il est quand même sur une falaise, donc il y a un petit peu d'arbre. Mais déjà, non, mais le décor m'inquiète. Hein. Moi, de toute façon, je suis pas tranquille. Je préfère les Olympiades. Donc pendant 10 minutes, je me suis dit, bon, voilà, il va jouer avec les genres et peut-être qu'il va nous offrir quelque chose d'un peu. Moi, j'aime bien rock'n'roll, j'aime bien les films où il parle de lui-même. Mais après, la seule chose que vous ne dites pas, c'est la pauvreté de l'enjeu.
Oui, c'est ça.
Tout ça pour qu'il arrive à composer sa musique de merde. C'est trois notes.
Oui, mais on s'en fout au bout d'un moment.
Il faut qu'il se réconcilie avec lui-même. Il y a le producteur qui passe son temps à le harceler au téléphone. Hey, tiens, le rendre à la partition et tout.
Et au bout d'une heure et demie, qui se plaint au téléphone.
Voilà, qui se plaint au téléphone. Et il finit par accoucher d'une musique que mon petit cousin Polly Pocket de Fred Dispatch aurait pu écrire aussi. Quoi.
Et tu imagines les coups de fil que va lui passer le vrai producteur après l'émission.
Alors, entre deux petits mouchoirs, puisqu'il y a un et deux, il est maintenant, Canet nous fait des... En effet, tu l'as dit, Jérôme, des séances de psychanalyse, quoi. C'est une psychanalyse... voilà. Et alors, moi, pour revenir à ce que tu disais, j'avais bien aimé Rock'n'Roll, parce que dans Rock'n'Roll...
Ah, c'était bien, mais il y avait une vraie autodérision.
Voilà, il y avait une autodérision, et il poussait jusqu'au bout la peur de vieillir.
Exactement.
Mais là, il reprend en plus un procédé, mais des procédés qui sont très vieux. Déjà, ça avait un petit peu coûté à Christophe Honoré quand il avait fait Chambre 212, c'est-à-dire les apparitions comme ça, c'était pas très bon. C'est très très vieux, quoi. Ça rappelle vraiment le théâtre de boulevard des années 50, Roussin et tout, c'est-à-dire la femme, la maîtresse, la même vie.
Ah,
et c'est surtout ça, c'est le côté très vieillot et très peu inspiré de ce film qui est vraiment gênant.
Je ne demande pas si vous avez dans le public des mots à dire sur lui de Guillaume Canet. Non. Et on termine vite avec Albatros de Xavier Beauvois avec Jérémy Renier qui incarne ici Laurent, un sous-officier de la gendarmerie d'Étretat dans cette Normandie où vit d'ailleurs le réalisateur de Des Hommes et des Dieux, vie quotidienne de sa brigade confrontée aux drames ordinaires, vie qui est allégée par l'espoir d'épouser Marie, qui est jouée par Marie-Julie Maille, sa compagne depuis 10 ans et mère d'une petite fille. Et puis un jour, alors qu'il veut empêcher un jeune éleveur qui est joué par Geoffrey Seri au bout du rouleau et des dettes de se suicider, Laurent tire et le tue. Un drame social et rural qui est construit exactement comme en trois actes, comme une tragédie. Malheureusement, je vous demande rapidement de me dire ce que vous en pensez, Pierre.
Bah, c'est un film qui est intéressant parce que là aussi, c'est la mise en scène qui est assez étonnante. On dirait un peu l'esthétique du muet qu'il aime bien, je crois. C'est-à-dire, par exemple, il y a beaucoup de gros plans très expressif comme ça, et puis des scènes peu dialoguées dans lesquelles il laisse arriver l'émotion dans la première partie. Donc je trouve que tout ce qui est la description de la vie des personnages, avec Jérémy Renier qui est très très bien, et puis ce qui lui arrive, c'est-à-dire la faute en quelque sorte, tout ce qui est de la faute et au-delà de la faute, je trouve que ça marche très bien. La rédemption, pour faire court, je la trouve un petit peu...
La rédemption en mer.
Voilà, c'est un tout petit peu léger. Mais tout ce qui est la faute et cette espèce de plongée dans pourquoi devrais-je payer, mais je ne peux pas m'empêcher de payer plus que je dois payer, est quelque chose de réflexion assez intéressante.
Xavier.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre. C'est-à-dire qu'il y a un choix du cadre entre plan serré et plan américain très précis qui ne change pratiquement pas à l'intérieur d'une séquence dans lequel vraiment les comédiens, et Jérémy Renier formidable en particulier, mais tous vont pouvoir effectivement jouer sur le silence, sur l'émotion naissante, sur ce qui est ravalé. Moi, j'aime bien la fin. Je trouve qu'au moins, elle nous emmène vers... vers une forme d'humanité qui me rassure un tout petit peu par les temps qui courent.
Mais elle est un peu attendue.
Enfin, elle est un petit peu attendue, on est d'accord. Et en même temps, voilà, je trouve qu'il y a un travail, et il regarde toutes les situations dramatiques, sociales, sans en rajouter, en allant les chercher plutôt qu'en leur demandant de venir, si vous voyez à quel film je fais allusion. Jusqu'au bout, je dirais du mal de la fracture. Et je trouve que voilà, le malaise des paysans, la défiance du monde rural, enfin, tout ce qui se passe aujourd'hui, il le regarde, et il le regarde avec une même empathie, y compris pour celui effectivement par lequel le drame arrive. Je trouve que c'est quand même un grand film qui n'avance qu'avance sans tambour ni trompette, pour reprendre une vieille expression, parce qu'on est chez André Roussin pratiquement, mais voilà, qui je trouve a une force de mise en scène absolument imparable.
Petite parenthèse, on pourrait faire une anthologie du cinéma sur les drames du monde agricole. Depuis 2-3 ans, ça n'arrête pas. Éric.
Mais c'est pas seulement sur le monde agricole, là. C'est sur la province, c'est sur la gendarmerie, c'est sur un couple, c'est sur un suicide. Il y a tout là-dedans. Il est très fort pour sa Beauvois quand il s'y met. Et on voit ces gens travailler. On voit ce que c'est que leur quotidien. Et on voit aussi que ce gendarme, qui veut faire le bien, qui veut aider les gens, il se casse la figure malgré lui, et c'est tout l'enjeu du film. C'est d'une justesse comme ça, parce qu'Albatros, c'est le nom d'une maquette de bateau que lui donne sa grand-mère, et lui son rêve c'est de partir pour Terre-Neuve, et tout est là-dedans. Et Jérémy Régnier est en train de devenir un magnifique comédien, il est en train de dépasser tous ses concurrents, et le film a un détail près là pendant la séquence de rédemption, comme vous dites, j'aurais pas mis l'hallucination, moi, on n'avait pas besoin, mais c'est un traître. Tu crois?
C'est le remords.
Là, en train de tout raconter la fin.
Non, on ne raconte pas.
Il reste la police de caractère du générique de fin, t'as pas dit. C'est bien aussi?
Non, mais là, Beauvois, chapeau, c'est pas tout à fait des hommes et des dieux, mais c'est un grand truc.
Sophie?
Oui, c'est un beau film, à la fois très modeste, en effet, comme dit Eric, cette façon qu'il a de filmer, cette vie de près de village, les relations de voisinage, la gendarmerie, les gendarmes qui font presque un travail social, enfin, il y a une sorte de modestie, je trouve, et puis en même temps, c'est très inattendu. Au début, on se dit, mais où il va? Qu'est-ce qu'il veut raconter exactement? Mais c'est assez intrigant, et c'est jusqu'à cette grande scission, effectivement, et ensuite cet appel du large, que moi, je trouve assez métaphysique, finalement. C'est un spirituel. Ritualiste d'une certaine manière, oui, Beauvois, il est fait pour rien des hommes et des dieux, et en effet ça donne quelque chose de très beau, de très juste, et je trouve qu'il faut dire la justesse aussi d'interprétation de Marie-Julie Maille, qui est la compagne de Xavier Beauvois,
qui est très bien,
qui est formidable, évidemment Jérémy Régnier est un très bon comédien, mais elle est formidable. Je trouve vraiment le film à l'image de ses beaux yeux là, enfin je trouve que c'est très très beau.
Eva.
Moi j'ai une autre lecture du film. Je trouve que la phrase pour moi qui est peut-être la plus importante pour Beauvois, c'est quand la personne qui joue sa mère dit à sa femme quand il part et qu'elle a l'impression qu'il la laisse avec tous les ennuis, elle lui dit sois généreuse. C'est un film en hommage aux femmes. Et aux gendarmes, en ce qu'ils réparent la société, ils demandent aux enfants de mettre un casque pour ne pas mourir, ils vont s'occuper d'un agriculteur. Donc c'est un hommage en quelque sorte à ceux qui réparent la société. Et pour moi, ce film, c'est « Regarde un homme tomber » et heureusement qu'il y a des femmes pour le tenir. Je crois que pour moi, c'est pas un film sur la misère sociale, etc. Au contraire, c'est-à-dire que
regarde quand même.
Il la regarde, mais au fond, ce qui l'intéresse, c'est un homme qui tombe. C'est un homme qui tombe, et est-ce qu'on va pouvoir le ramasser? Alors, il y a des moments, ce film est moins fluide que d'autres de ces films qui on a l'impression que tout le film est dans un seul souffle. Là,
on met entre parenthèses, si vous êtes d'accord, les gardiennes.
On met à part les gardiennes. On le raye de sa filmographie. Voilà. Mais pour moi, je le vois plutôt comme ça, comme un film extrêmement personnel. Avec aussi des moments moins bien, des moments par exemple où il va doublonner, il est sidéré, il faut que quelqu'un dise, il est en état de sidération. Donc il y a des petites maladresses, des petites lourdeurs, mais qui sont secondaires. Pour moi, c'est plutôt regarde un homme tomber et empêche-le de tomber.
Ça s'appelle Albatros et c'est signé Xavier Beauvois. Le temps est venu des conseils. Comme vous êtes cinq, vous allez avoir plein de conseils à nous proposer. On va commencer avec Sophie.
Alors, un conseil que je vais partager avec Xavier, qui est Une vie démente, qui est un film qui va sortir dans 3 jours, qui est un film que j'ai trouvé merveilleux d'un couple, Anne Siro et Raphaël Balboni, sur la dégénérescence d'une mère et la façon dont un couple absorbent en quelque sorte ce drame dans leur propre couple et dans leur propre famille. Enfin, je laisse Xavier en parler. Et parce que je voudrais conseiller un deuxième film qui est Compartiment 6.
Ah. Ah oui,
tu vas le partager avec moi. Alors,
que
vas-y.
Je partage donc moi. Alors, je savais pas.
Il va y avoir du monde.
Vas-y, vas-y.
Qui est un film finlandais de Juho Kuosmanen et qui a eu le Grand Prix, je crois, à Cannes cette année.
Absolument.
Et qui est une rencontre absolument inattendue entre une Finlandaise et une qui est une étudiante en archéologie qui peut aller voir les pétroglyphes au bord de la mer de Barents et un Russe de base et se retrouve tout le temps du film dans un compartiment, ce fameux compartiment 6. Et je trouve le film enfante quelque chose de très beau. Donc je le recommande.
Le conseil des
Alors, vous avez déjà beaucoup parlé ici, et les auditeurs aussi l'ont aimé, L'illusion perdue de Xavier Jeannoli.
Ah oui.
Je voudrais redire que ce film est magnifique, il est formidable, il a un élan, et il arrive aussi à faire en creux le portrait de ce qu'est un artiste, parce que justement il se gâche. C'est très dur de montrer ce qu'est un artiste à l'écran, de montrer quelqu'un en train de peindre, il n'aurait aucun intérêt. Et lui, il arrive par la soustraction à nous faire comprendre l'injustice du don.
Masque, hein.
On ne va pas le refaire, mais je voudrais le répéter.
Alors, en plus, tu vas ajouter un conseil.
Compartiment numéro 6, oui, parce qu'à partir d'une chose assez banale, la rencontre de deux opposés, il en fait quelque chose d'autre. Et puis ce livre que j'aime beaucoup, Ozu et nous, Nathalie Azoulay et Serge Toubiana, ils dialoguent entre eux à partir de films d'Ozu qu'ils aiment. Et ce n'est pas du tout de l'étalage de science, c'est des sensations qu'ils ont. Et par exemple, ils disent à un moment, jamais dans un film occidental, quelqu'un dirait à ses parents, qu'est-ce que j'ai aimé vivre avec toi.
Moi, comme chaque année, je vous conseille et vous propose de voter pour le prix annuel des auditeurs du Masque et la Plume. Vous nous adressez, s'il vous plaît, sur le site du Masque et la Plume, à la page tout simplement Réagir, le film français et le film étranger que vous avez préféré au cours de l'année 2021. Et vous avez pour cela jusqu'au 20 décembre. Le conseil d'Éric.
Puisque Compartiment 6 est déjà pris, ce sera Pig d'un nommé Michael Sarnowski. Avec Nicolas Cage en homme des bois, barbu et cheveux longs, qui ressemble à Romain Gary à la fin de sa vie et qui vit dans cette cabane avec sa truie qui est chercheuse de truffes. Et un jour, des voyous lui volent l'animal et ça détruit sa vie. Et on va découvrir tout ce qui lui est arrivé avant. Et il y a en particulier une séquence dans un grand restaurant de Portland avec un dialogue d'une intelligence, d'une cruauté qui vaut vraiment la peine. Et là, Nicolas Cage, en une heure et demie, fait oublier toutes les âneries qu'il a tournées depuis 10 ans.
Le conseil de Xavier.
Alors, je le partage, effectivement, Une vie démente. Je suis comme Sophie, ça sort la semaine prochaine. Et c'est une petite merveille sur un sujet qui n'est pas facile. Hein, la démence, la vieillesse sénile d'une mère qui est interprétée par l'excellente Jo Dozer, qui est absolument magnifique, et son fils et sa bru qui la regardent, Jean Le Pelletier. Et c'est un film d'abord très inventif en termes de mise en scène, peut-être trop à certains moments, c'est un premier, ils n'ont pas tout bien mesuré, mais vraiment qui a une envie de cinéma. Et l'autre, alors il est sorti cette semaine, c'est un polar nihiliste, punk, mal élevé, qui s'appelle Burning Casablanca, c'est marocain, ça part dans tous les sens, mais ça se reconstitue autour d'une envie de cinéma, c'est signé également par un premier cinéaste, Ismaël El Iraki, et franchement, ça dépote.
Pierre.
La réédition en salle d'un des premiers films de David Cronenberg, qui s'appelle Chromosome 3. C'est un film totalement effrayant, parce que l'histoire, c'est ça. Vous imaginez toutes les rages qu'il peut y avoir en nous, si brusquement elles prenaient vie. Et ces rages en nous deviennent des êtres bizarres qui accomplissent des vengeances. C'est un scénario absolument fou.
Ça peut être un sujet pour Guillaume Canet, hein, tout à fait.
En tout cas, David Cronenberg, c'est un de ses premiers films, un peu fauché mais passionnant. Et puis c'est avec une actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Samantha Eggar.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Sophie Avon, Eva Bétan, Éric Nehoff, Xavier Le Herpeur et Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance Française, il y avait, je les remercie, Bruno Mourlan, Guillaume Leplège et Tar Bouklifa pour une réalisation et mise en scène signée Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 18 novembre. Je vous attends très nombreux à partir de 19h au théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail à Paris dans le 6e, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Et dans une semaine, on parlera de théâtre. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.